Bonjour tout le monde. Voilà, oui. Oration surprise, on va dire. Hein? Le Seigneur est bon. Et c'est très très bien qu'on ait terminé par ce chant « Je veux te suivre ». Je crois que j'y avais même pas pensé quand on faisait la répète. Parce que... Bah, je vais parler de suivre Jésus, en fait. Donc comme quoi le Seigneur dirige toutes choses. Il conduit, merci Seigneur. Parce que la dernière fois, j'ai parlé de croire en Jésus. Donc l'objectif, bien sûr, de croire en Jésus, c'est de le connaître. De connaître Christ au travers de, donc, d'une véritable relation. Mais ce n'est pas l'une des premières choses que certains disciples ont entendues de Jésus. Dans plusieurs exemples, on a Jésus qui parle aux disciples, un futur disciple. Je prends l'exemple, je ne sais pas, il peut y avoir un Matthieu. Et la chose qu'il lui a dit en premier, c'est « Toi, suis-moi ». Alors, il n'y a pas dit de prendre son téléphone portable et d'aller regarder sur Twitter et de faire d'accord. C'était pas, à l'époque, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait pas de followers dans ce sens-là. Il ne faut pas confondre parce qu'il ne s'agissait pas de suivre Jésus de loin, d'aller voir regarder de temps en temps un petit peu les nouvelles et de dire « Bon, où est-ce qu'il en est ?» Où est-ce qu'il est allé? Bon, il est allé à Galilée, il est allé là, ok. Non, il s'agissait de suivre Jésus. Et quand Jésus parle, il parle en tant qu'Emmanuel. Il parle en tant que Dieu présent au milieu de son peuple. C'est pas présent de loin, c'est présent de près. C'est à côté de nous, c'est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pas Emmanuel, Dieu nous regarde de loin. C'est pas nous, on le regarde de loin, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Et ça avait l'air d'être important pour Jésus d'être avec ses disciples. Ça avait l'air d'être important pour Jésus que ses disciples soient avec lui. Et pas juste qu'ils le suivent de loin. Parfois on vient avec toutes sortes de questions à Dieu. Et on vient devant Dieu et on oublie de prendre du temps avec lui, de savoir qu'à certains moments, il veut qu'on puisse prendre ce temps avec lui. Et des fois, on a toutes sortes de questions. On veut poser toutes sortes de questions à Dieu, toutes sortes de questions au Seigneur. Et des fois, il y a juste ce temps-là que le Seigneur attend qu'on prenne avec lui, simplement, d'être là, avec lui, dans sa présence. Je vous ai déjà raconté mon histoire de poney, je crois. Je vais la raconter encore. Parce que ça, quand je parle de suivre Jésus, c'est quelque chose, ça m'a marqué. Dans ma vie de chrétien, c'est quelque chose qui m'a marqué. Donc il était une fois... Non, je ne vais pas commencer comme ça. Mais en tout cas, ça m'est arrivé véritablement. Un jour, j'habitais sur Grenoble. Et sur Grenoble, c'est une ville qui est entourée de montagnes. Et quand on lit la Bible et qu'on voit les montagnes, on se dit « Waouh, Jésus, il a fait ça. Il est allé sur la montagne, pas vrai ? Il allait sur la montagne, il marchait, il allait tout seul, il allait prier. » Et des fois, parce que ça arrive quand on est chrétien, on vient avec toutes sortes de questions. Moi, j'avais plein de questions à Dieu. Un jour, je me souviens très clairement, je ne l'ai pas fait qu'une seule fois, mais une fois particulièrement, ça m'a marqué, parce que Dieu m'a vraiment parlé. Et cette fois-là, voilà, plein de questions dans la tête. Je fais comme à mon habitude, je prends ma voiture, j'y vais. Je regarde le sommet de la montagne, je dis j'y vais. Je roule, à un moment donné, il y a le chemin qui est barré. Et il y a quand même un petit chemin qui continue, on passe des villages et tout ça. Et je commence à marcher, je marche. Et à un moment donné, je suis vraiment dans la montagne. Je suis seul. Et je me mets à crier devant Dieu. Et je crie devant Dieu. Voilà, il n'y a personne, je suis bien. Et je crie devant Dieu. Et je dis, Seigneur, tout ça dans ma vie, tous ces problèmes-là, j'aimerais bien que tu viennes, que tu m'aides à les résoudre. J'aimerais bien que tu me répondes un petit peu à toutes ces questions-là. Et là, à un moment donné, j'entends bouger dans un coin à droite. Ah non, j'espère qu'il n'y a pas de promeneur, j'espère qu'il n'y a personne. J'entends bouger dans un buisson, visiblement, je vois pas grand monde. Et qu'est-ce qui sort du buisson? Il sort un petit poney. À la montagne, on n'a pas trop l'habitude de voir, enfin je veux dire, c'est pas très habituel de voir un petit poney se promener tout seul. Mais c'est véridique, hein. C'est pas une histoire qu'on m'a racontée, c'est vrai, hein. Je parle d'expérience, de vécu. Donc il y a un poney qui sort. Il vient là, et moi je suis complètement tétanisé, parce que j'étais en train de prier, j'étais complètement tétanisé, et je vois ce poney qui s'approche comme ça de moi, il broute un peu d'herbe à droite, roule un peu d'herbe à gauche. Il vient contre moi. Il vient là, juste devant moi, et met sa tête contre ma jambe. J'avais envie de pleurer. Franchement, mais c'était tellement impromptu comme situation, tellement... même en rêve, j'aurais même pas pensé. Il était là, comme ça, il se met contre moi, et ensuite il continue son chemin. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire, quoi? C'est un petit peu étrange comme situation. Et j'entends encore bouger sur la droite. Encore dans les bosquets. Qu'est-ce que c'est, quelque chose qui bouge? J'ai quand même un peu... Parce qu'on est à la montagne, il peut y avoir des sangliers, il peut y avoir des bêtes sauvages, enfin, je sais pas, il n'y en a pas trop non plus, mais... Mais quand même, j'entends bouger, et qu'est-ce que je vois sortir? Un mouton. Un mouton. Et je remarque qu'au même endroit où le poney, il a été, il broute l'herbe lui aussi. Et il vient à côté de moi, encore, mais il ne met pas sa tête contre moi. Il n'est pas si sentimental, je ne sais pas. En tout cas, il vient là, il broute, et puis il continue. Et en fait, il voit le poney de loin, et puis clac, 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 vite, il court après. Et je dis, mais Seigneur, c'est complètement surréaliste cette situation-là. Un poney, un mouton, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et ça m'a parlé profondément. Parce que je pouvais avoir plein de choses à dire devant Dieu. Je pouvais avoir plein de questions, plein de choses, des tas de choses qui pouvaient passer dans la tête. La seule chose que le Seigneur me disait, c'est toi, suis-moi. Là où je vais, vas-y.
Amen.
Là où je vais, ne cherche pas à comprendre, vas-y. Suis-moi. Et ça m'a profondément marqué. Ça m'a profondément marqué parce que, d'abord, c'est quelque chose qu'on lit dans la Bible. Et le Seigneur, il l'a donné aux disciples, donc ça fait plaisir un peu que le Seigneur dise ça. Mais ça relativise un petit peu toutes nos situations, toutes les situations difficiles qu'on peut vivre parfois. Et dans lesquelles le Seigneur, ça n'empêche pas le Seigneur d'être à côté de nous et d'être avec nous. Ça ne l'empêche pas de continuer à nous dire, toi, suis-moi. Et cette phrase qui a été donnée aux disciples, Jésus l'a dit et la donne à chacun d'entre nous chaque jour. Que cela fasse un mois, un an, deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, qu'on marche avec Jésus, qu'on dise marcher avec Jésus. Mais encore faut-il le suivre.
C'est ça.
Mais encore faut-il accepter d'aller là où il veut qu'on aille.
C'est ça.
Et des fois, c'est encore autre chose. Parce que quand Jésus nous dit « suis-moi », ça peut vouloir dire aussi autre chose. Je prends l'exemple de Matthieu. Matthieu était quelqu'un qui n'était pas très apprécié des peuples. C'était un juif. Mais c'était un juif qui récoltait l'argent, d'accord, pour les Romains. Donc il n'avait pas une position très, très appréciée de son peuple, des gens qu'il connaissait, peut-être même de sa famille. Et qu'est-ce qu'il avait peut-être amené là? Peut-être c'était l'ambition. Peut-être c'était l'orgueil, peut-être c'était vouloir toujours beaucoup plus, et il s'était peut-être retrouvé là, dans une position dans laquelle, pour beaucoup, Matthieu était un traître, mais peut-être que lui, intérieurement, ne vivait pas les choses de la même manière. Et peut-être que justement, il avait regardé à tout ça, et il était dans une situation où il avait besoin d'un sauveur. Dans Matthieu 9:9, chapitre 9, verset 9, il nous est dit que Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Et il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Et je trouve ça intéressant que la Bible nous dise que Jésus vit un homme assis. C'est-à-dire un homme qui n'était pas en mouvement. Un homme qui était là, qui était en train de stagner dans sa vie, qui stagnait, qui était là, qui attendait, qui remplissait sa fonction, mais sa vie stagnait. Et à un moment donné, Jésus vient et lui dit, suis-moi. Quand quelqu'un vous dit, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit, viens, toi, suis-moi, vous ne le connaissez pas. Vous allez le suivre?
Mais
probablement que Matthieu était là, il entendait tout ce que Jésus disait de loin. Il entendait tout ce qui se faisait, tout ce qui était là. Et il avait peut-être un peu comme Zachée qui cherchait à monter sur l'arbre pour voir Jésus et les autres l'empêcher. Voilà, les autres étaient là au milieu. Jésus avait vu Matthieu, il avait vu le désir de son cœur. Et la seule chose qu'il avait besoin de lui dire, c'est « suis-moi ». Matthieu s'est levé. La Bible nous dit, il s'est levé et il l'a suivi. Il s'est mis en mouvement. Il n'est pas resté à sa place. Il n'est pas resté assis, il s'est mis en mouvement. Et l'un des aspects Les plus difficiles devant une telle requête et donc une telle demande, c'est sans doute de se mettre en marche. Sans doute de se mettre en marche, de dire « Ok, je me lève de la situation où je suis là. Jésus m'appelle, qu'est-ce que je vais faire ? Jésus me demande de suivre, qu'est-ce que je vais faire ?» Et quand on est dans une situation où on est assis, il faut un peu d'effort pour se lever. Il faut un peu d'effort pour se mettre en marche et pour aller de l'avant et pour sortir de la situation. Jésus lui a donné une clé. Lui qui cherchait certainement un sauveur, qui cherchait probablement une réponse à ces situations dans sa vie. De paria, de quelqu'un de traître. Ça ne devait pas être très appréciable pour lui de vivre ça alors qu'il faisait partie de ce peuple. Que ce peuple le rejetait. Que ses amis le rejetaient. Ses amis le laissaient de côté. Ça, c'est, sa réponse ne laisse aucun doute à tout ça. Lui, on peut se poser la question de savoir où est-ce qu'il en était, mais sa réponse ne laisse aucun doute, il abandonne tout. Il est prêt à tout abandonner, à tout laisser, de ce qu'il a, de ses fonctions, de l'argent, de tout ce qu'il a, il est prêt à tout laisser pour suivre Jésus. Ça, c'est la réponse qu'il a donnée à Jésus. Parce que lorsque Jésus fait la même demande à un jeune homme riche, d'accord ? Jeune homme riche est là, il dit « Oui, qu'est-ce qu'il faut pour que je... » Ok, voilà ce que tu fais. Et Jésus pointe du doigt le problème. Il pointe du doigt avant de lui dire... Il ne lui a pas dit d'entrer « Suis-moi » à ce jeune homme riche. Vous voyez l'histoire ? Un jeune homme riche qui vient le voir, qui lui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour aller avec toi ?» Enfin, il lui dit, c'est « Toi, laisse tout ce que tu as. » Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. À celui-là, il n'a pas dit de suite, suis-moi. Il n'a pas dit non plus, vends tout ce que tu possèdes et puis tu le donnes à Judas. Je pense qu'il savait un petit peu. Mais il a dit, vas-y, vends. Laisse derrière toi tout ce qui t'empêche d'avancer. Laisse derrière toi... C'est pas juste pose la question de « Seigneur, comment est-ce que je dois laisser ça derrière moi ?» C'est à un moment donné, il y a une décision. À un moment donné, il y a un acte. Il y a un acte de folie dans lequel Jésus nous demande de laisser derrière nous ce qui nous empêche d'avancer et de le suivre. Laisser derrière nous et avancer et le suivre. Et donc dans cette situation-là, voilà l'ordre dans lequel Jésus lui a demandé à ce jeune homme riche d'aller « Laisse derrière toi ». Et suis-moi. Il n'a pas eu besoin de le dire à Matthieu parce qu'il savait déjà que Matthieu était prêt à le suivre. Il savait déjà que Matthieu, j'en suis convaincu, était prêt à tout abandonner pour le suivre. Et il attendait qu'une seule phrase, qu'une seule parole de lui. Suivre Jésus-Christ, c'est d'abord et avant tout lutter pour se mettre en mouvement contre tout ce qui nous empêche d'avancer, contre tout ce qui voudrait nous freiner. Et en tant que chrétien, peut-être des fois on se dit, oui, mais voilà, Seigneur, donne-moi la force, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, donne-moi la force. Mais Dieu nous a rendus aussi capables de décider. Aussi capables d'avoir une volonté, d'avoir de la force dans ce que l'on veut, d'avoir de la détermination. Si quelqu'un demain nous demande de renier Jésus, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Non. Dans cette situation-là, le Seigneur nous dit, mais c'est voilà, sois fort. Pour moi, sois fort dans tes décisions, sois fort dans ce que tu veux faire et marche à ma suite. Tout ce qui t'empêche d'avancer, laisse-le et mets-le de côté. On peut avoir la volonté de suivre Jésus, mais encore faut-il en avoir la force. Et aussi la nécessité. Vous savez, il y a beaucoup de... Des fois, la force naît de la nécessité. Du fait qu'on reconnaisse notre besoin de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, on dit « Oui, j'ai pas de force », mais est-ce qu'on en a le besoin ? Quand je me mets en prière, que je réalise que j'ai besoin de toi, Seigneur, que je réalise tout ce que j'ai besoin, il y a plein de choses qui commencent à s'écarter du chemin. Il y a un chemin qui commence à se tracer, direct, vers Jésus. Et une force qui est renouvelée en nous pour le suivre. Des fois, c'est l'objectif qu'on se donne. Pour Matthieu et pour d'autres, Jésus était la réponse. C'était la réponse. Et en hébreu, on parle de Jésus comme étant la réponse. Hatshuva. Mais ce n'est pas pour rien qu'on parle de la réponse. C'est parce qu'on a aussi des questions. C'est parce qu'aussi on vient devant Dieu avec des questions. et que Dieu répond à nos questions, et que Dieu est cette réponse-là, et que Jésus est cette réponse-là. Mais ça naît, ça commence déjà dans le questionnement, ça commence déjà dans la réflexion, ça commence déjà dans la réalisation de notre besoin de Jésus, notre besoin de Dieu, notre besoin qu'il vienne dans notre vie. Ensuite, lorsque Jésus demande à quelqu'un de le suivre, eh bien, c'est pas juste pour aller faire un tour. C'est pas juste pour aller faire une balade. Hein? Voilà, on va faire une petite promenade avec Jésus, on va bien s'amuser, C'est pas juste ça. Christ est venu habiter, il est venu demeurer au milieu de son peuple, et ça suppose qu'il était avec ses disciples, matin, midi, soir, nuit, tout le temps. Il était avec eux chaque instant, chaque moment. Et donc, je l'ai déjà dit, il n'est pas juste venu et puis ensuite il est allé à l'hôtel en disant « Ok, demain je reviens vous enseigner. » D'accord ? Il est venu pour vivre avec ses disciples et de la même manière, il vient dans notre cœur, il vient dans notre vie pour vivre avec nous chaque instant, chaque moment. Pour marcher avec quelqu'un, il faut une impulsion, il faut un élan, il faut un mouvement, bien sûr, mais il faut aussi une direction. Il faut un sens. Où est-ce qu'on va? C'est-à-dire qu'il faut savoir s'accorder avec la personne avec laquelle on avance pour avancer ensemble. Marcher à sa suite pour avancer. Moi, j'ai ma sœur, j'ai une sœur qui, quand elle marche, je veux bien marcher, voilà, quand on marche ensemble, je ne sais pas pourquoi, des fois, elle décale comme ça. Elle marche un peu de travers. Alors, on n'a jamais su trop, on n'a pas été consulter des spécialistes ou quoi, bon, c'est pas grand-chose, mais très très souvent, je marche avec elle, et puis boum, boum, elle me tamponne, elle me cogne sur le côté. Je fais, mais quand même, mais marche droit, marche sur ton chemin. Ouais, mais bon, tu sais pas, des fois, je suis comme ça. Et il y a besoin de s'accorder, parce que sinon, on se marche un petit peu les uns dessus les autres. Il y a besoin de s'accorder ensemble. Il faut savoir avancer ensemble, sinon, c'est la collision. Et laisser passer Jésus au-devant de nous. Je vais prendre un exemple. Est-ce que vous voyez ce genre d'horloge, des pendules? Voilà, ce genre de pendules. Des pendules, moi j'ai ma grand-mère qui en avait une. Bon, elle était à Romontoire, c'était une petite. Mais il y en avait aussi des plus grandes. Et toutes les semaines, quand mon père, on allait voir notre grand-mère, toutes les semaines, mon père arrivait et puis... Et la pendule s'était arrêtée entre-temps, ma grand-mère s'en occupait pas vraiment. Hein. Il faisait ça, il remontait, mais il ne suffisait pas juste de remonter, il fallait aussi prendre le pendule, le mettre, clac, et le refaire. Parce que, et à chaque fois, et c'est ça aussi que Jésus fait avec nous. Quand on est statique, quand on est à un moment donné, on a besoin de l'impulsion de Dieu pour dire, hop là, c'est parti, on repart. Hein. Le mouvement, c'est vraiment quelque chose de Dieu. C'est ce qui crée la vie, c'est ce qui, même sur la Terre, à l'échelle planétaire, les cours d'eau et toutes ces choses-là, il y a du mouvement, et c'est vraiment ça qui occasionne la vie. Et en plus de ça, dans une horloge, mon père faisait encore quelque chose, c'est qu'il y avait une petite vis au bout, et à chaque fois, il réajustait un peu cette vis, pour que ça dure plus longtemps en même temps. Il réajustait un petit peu, donc ça s'appelle comment, c'est pas... Ouais, c'est juste voilà pour et donc ça voilà parce que quand c'était un petit peu déréglé et ben forcément ça durait un temps puis pouf, au bout d'un moment ça s'arrêtait donc il réajustait ça et notre vie c'est un petit peu comme ce pendule, c'est un petit peu comme cette pendule, comme ce genre d'horloge qui ben, des fois on a besoin que Dieu nous donne ce mouvement et on a besoin des fois que Dieu réajuste notre vie, on a besoin que Dieu nous redonne cette impulsion. Et on a besoin qu'il nous aide à aller plus loin. On a besoin qu'il nous aide à trouver de l'endurance en lui. À trouver de la force, à aller toujours plus loin. Nos vies sont ainsi. Parce qu'on peut bien commencer, mais aussi on peut terminer sur le côté. Et quand il y en a qui ont terminé sur le côté dans la Bible, comme ces aveugles qui sont sur le côté, qui ne voient pas, qu'est-ce qu'ils font? Il y a bien la foule qui passe devant eux, mais ils crient! Il crie, il trouve la force de crier, et les autres veulent le faire taire. Mais non, mais arrête, tu vas importuner le maître. Non, Seigneur, viens, aide-moi. Et il trouve la force pour crier. Parce que Jésus est une réponse pour lui. Si Jésus n'est pas une réponse pour nous, on va regarder, laisser passer les disciples et tout ça. On va laisser passer la caravane. On va regarder, puis on va dire, oui, mais moi, voilà. Trouver la force de dire, Seigneur, viens pleinement dans ma vie. Viens remplir. Tu vois, je suis tombé. Tu vois, j'ai besoin, mais je sais que je peux avancer encore avec toi. Tu as besoin de réajuster ma vie. Réajuste ma vie. Réajuste ma vie, mais donne-moi la force de me relever. Aide-moi, et je veux marcher avec toi. Je veux te suivre. Laissez tout derrière moi. Dieu est en mesure de relancer la machine. Il est en mesure de la réajuster. Son objectif, c'est de la voir toujours en marche. De sorte qu'on y voit aussi les perfections invisibles de Dieu. Parce que quand on est en marche, c'est une preuve que Dieu est à l'œuvre dans notre vie. C'est une preuve qu'on laisse Dieu travailler dans notre vie. Et c'est aussi une gloire pour le Seigneur que son enfant, son fils, sa fille marchent avec lui. C'est une gloire pour lui. Parce que si nous tenons, ce n'est pas sa force. Si nous tenons, c'est parce que lui nous donne cette impulsion. C'est parce que lui conduit nos pas. C'est parce que nous sommes en mesure de le suivre. C'est parce que nous avons répondu à son appel de le suivre, de marcher à sa suite, de laisser toutes ces choses derrière nous. Beaucoup de choses voudraient nous détourner de la présence de Dieu. L'ambition, la cupidité, l'égoïsme, même dans l'Église, hein, peut-être aussi. Même sous prétexte de servir Dieu, des fois. Je veux dire, les disciples aussi, ils avaient leur lot d'ambition, d'orgueil, de... Hein, je vais prendre un passage, je vais lire un petit peu plus. Dans Jean, au chapitre 21... Dans Jean au chapitre 21, pour vous situer, donc c'est après que Pierre ait renié Jésus. Jésus vient, le réhabilite. Pierre a renié Jésus, c'est terrible. Et dans sa situation, à Pierre, on pourrait se dire, mais voilà, tout est fini, c'est plus la peine, j'ai terminé mon chemin. Certainement, il se l'est dit. Et Jésus a demandé donc les femmes aillent chercher les disciples et Pierre. Parce que peut-être Pierre ne se considérait plus comme un disciple. Quelqu'un qui est censé suivre Jésus. Un disciple. Quelqu'un qui est censé suivre Jésus. Et des gens, donc Jésus vient, il parle à Pierre. Je vais prendre alors à partir du chapitre 21, à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, « M'aimes-tu ?» C'est dur quand même d'entendre ça alors qu'on vient de renier Jésus. Il insiste là-dessus. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois « M'aimes-tu ?» et lui répondit « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. » « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu voudras. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Donc là déjà, Jésus lui dit « Suis-moi » et lui dit aussi la manière dont il va le suivre. C'est pas très... Voilà, c'est pas très... Ça donne pas vraiment envie. Hein. Quand si Jésus lui dit « Voilà par quelle mort tu vas souffrir, par ce par quoi tu vas passer », c'est pas quelque chose qui est encourageant, mais Jésus lui dit « Suis-moi ». Malgré cette perspective de difficulté, malgré cette perspective de douleur, suis-moi, parce que c'est ainsi que tu me glorifieras. Et au verset 21, en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Hein ? Là-dessus, le bruit se répondra après. C'est pas... Et c'est assez intéressant parce que Jésus lui dit « Suis-moi » à Pierre, une première fois, en lui disant « Voilà ». Et Pierre, là, peut-être il n'a pas envie d'être... Et lui, là, est-ce que... qu'est-ce qui va lui arriver à lui ? Et Jésus recentre vraiment la chose en lui disant « Mais ça, c'est pas ton affaire. Ce que je veux faire avec l'un, avec l'autre, c'est pas ton affaire. Ne regarde pas à comment est-ce que Dieu peut-être se glorifie dans la vie de l'un ou Dieu fait... C'est, ce qui m'importe, c'est toi. De quelle manière est-ce que tu es déterminé à me suivre ? Suis-moi simplement. Voilà l'objectif de ta vie. Suis-moi. Ne regarde pas à droite, à gauche. Ne regarde pas à l'un, à l'autre. Réjouis-toi pour ton frère. Réjouis-toi pour ta sœur. Si tu entends qu'il a été béni, si tu entends que Dieu s'est glorifié, réjouis-toi. Mais toi, que t'importe ? Toi, suis Jésus. Toi, marche dans ses pas. Marche dans sa volonté. C'est ça que Jésus lui dit. C'est ça que Jésus dit à Pierre. Parce que certainement, ils étaient là, et puis, oui, bien sûr, il y avait un peu de compétition. On voyait des fois que les disciples ont demandé à Jésus, qui c'est qui va s'asseoir à ta droite ? Est-ce que ce sera moi ? Est-ce que ce sera lui ? Non, mais c'est pas du tout ça. Les disciples étaient humains comme nous, finalement. Ben oui, c'était humains, c'était des disciples comme nous. Et on voit aussi tout l'orgueil et l'avidité personnelle, l'ambition qu'on peut avoir personnellement, même dans le service pour Dieu, même dans, quand on dit « moi je veux marcher avec Jésus », même dans tout ça, en fait, ce sont ce genre de pensées qui peuvent nous dire « ça t'écarte de l'objectif ». Parce que ce que Dieu peut faire avec nous d'une certaine manière, il ne le fera pas avec quelqu'un d'autre. Et si nous on veut le faire de la manière que l'autre le fait, eh bien on passera à côté de la manière dont Dieu veut que l'on fasse. On passera à côté de cette manière-là. C'est l'objectif de Dieu de faire de notre vie quelque chose d'unique, quelque chose de formidable en lui, quelque chose de vrai en lui, pas une imitation de quelqu'un d'autre. Le seul que nous avons à imiter, c'est Jésus-Christ. Le seul que nous avons à suivre, c'est lui. C'est lui notre maître, c'est lui notre modèle, c'est lui que nous voulons suivre. Et c'est après lui que nous voulons marcher. Alors ça n'empêche pas que nous ayons des modèles, des exemples dans la vie au travers d'un serviteur de Dieu ou de l'autre, bien sûr. Je ne suis pas en train de rabaisser ça. Mais gardez présent à l'esprit que l'objectif de notre vie, c'est de suivre Jésus à la manière dont il veut qu'on le suive. Et des fois même, bien certaines personnes voudront s'opposer à ça. Peut-être même des frères et des sœurs, pourquoi pas ? Je dis, je veux pas d'accord, soulever des tas de discussions, mais peut-être ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé de voir que les premiers opposés à quelque chose, c'était les frères et sœurs qui avaient le plus proche de moi. Et que finalement, ben, Dieu dit non, vas-y par là. Et il n'y avait pas de. Voilà, c'était, le but c'était pas d'enfoncer les portes, c'était de suivre Jésus. De suivre là où il veut qu'on aille. On est tellement préoccupé à regarder autour de nous que nous oublions aussi de nous regarder nous-mêmes et de regarder Jésus. De savoir faire un peu l'introspection en nous-mêmes pour déjà dire « Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ?» Et regarder Jésus pour dire « Seigneur, je veux te suivre et je veux marcher après toi. » Accepter sa volonté en toute simplicité. L'objectif de suivre quelqu'un, c'est quoi ? C'est de le voir faire, c'est prendre du temps avec lui, donc pas juste de loin, mais c'est aussi apprendre de lui. Il y a des choses qu'on ne peut apprendre que de Jésus. On ne peut apprendre que de Dieu. La souffrance ou autre chose, parce que des fois, Dieu nous apprend au travers de la souffrance. Ça, on n'a pas envie, mais des fois, Dieu le permet. Comprendre ce qui motive les choix de la personne que l'on suit, sa vie, l'observer, et avoir donc un modèle. Et enfin, tout ça, c'est bien, mais ce ne serait pas grand-chose si l'objectif, ce n'était pas juste uniquement de se mettre en marche, de marcher à côté, mais d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Elle est super, cette chanson. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je veux marcher avec toi. Marcher, ça suppose de la motivation, mais ça suppose aussi de la persévérance. Et je ne sais pas si moi, c'est bien sûr comme ta Grenoble que j'aimais bien faire des, pas des treks, mais oui, bon, des bonnes balades qui durent bien longtemps. Et des fois, on se dit, ah, j'aimerais bien rentrer à la maison, c'est un peu fatigué. Mais non, mais on peut pas, il faut aller jusqu'au bout. Hein. On peut pas rester en chemin. Hein. Il faut continuer pour pouvoir revenir au moins jusqu'à la voiture, puis ensuite rentrer à la maison. Parce que bah, sinon, bah, on reste la nuit. Et ça a failli m'arriver une fois. Mais... en tout cas, il ne s'agit pas seulement de suivre Jésus, mais d'aller vraiment jusqu'au bout avec lui. Et ça passe par notre détermination, ça passe par notre volonté. Ça vaut pour les fois où nous savons, nous avons vraiment conscience. Il y a des fois où on a vraiment conscience que Jésus est présent avec nous. Et il y a d'autres fois où on n'a pas l'impression, on ne sait pas trop. Je pense que ça arrive à chacun. Des fois on se dit, mais Seigneur, vraiment tu es là, et pourtant Jésus est là. Et pourtant Jésus est présent. Et ça vaut pour toutes ces fois-là. Il y a les disciples d'Emmaüs, lorsque la Bible nous dit, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, donc ces disciples marchaient en direction de Jérusalem, ils avaient tout ce qui avait été vécu par rapport à donc, la mort de Jésus, à tout ce qui s'était passé, et beaucoup de disciples étaient un petit peu perdus, et ces disciples-là, ces deux disciples d'Emmaüs, qu'on appelle Emmaüs, donc marchaient et quelqu'un les rejoint sur le chemin. Ils n'en ont pas eu conscience, en tout cas pas au début, mais il se trouve que ce quelqu'un, c'était Jésus. Et la Bible nous dit que donc, quand ils se sont approchés du village où ils allaient, donc Jésus leur parlait, leur expliquait, il dit, mais est-ce que tu n'as pas entendu parler de ce prophète qui est venu, tout ça, la manière dont il est mort et tout ça? Ah là là, qu'est-ce que vous êtes lent à comprendre, hein? Et commençant par les prophètes et tout ça, Jésus leur explique tout ce qu'il... Mais eux ne savaient pas que c'était Jésus. Eux ne savaient pas. Et lorsqu'ils furent près du village, nous dit la Bible, donc Luc 24, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Et je me demande ce qui se serait passé si finalement il ne lui avait pas proposé. Il aurait pu poursuivre son chemin, et il aurait pu continuer, et eux, ils auraient pris leur propre chemin, ils auraient entendu tout ça avec beaucoup de joie, beaucoup... mais ils ne seraient pas restés dans cette présence, ils ne seraient pas restés en présence de cet homme qu'ils ont découvert plus tard comme étant Jésus. Et on peut avoir des bonnes surprises. Et il y a plusieurs histoires comme ça, je me demande, mais qu'est-ce qui serait passé? C'est pareil, l'histoire de Lot, Sodome et Gomorre, c'est la ville devait être détruite, donc Dieu a dit, s'il y a quelques justes, s'il y a même une dizaine de justes à Abraham, il a dit, bon, ok, je ne détruirai pas cette ville. En fait, il n'y en avait même pas 10. Mais lorsque Lot voit ses anges, enfin, c'était des anges, mais en même temps, il n'avait peut-être pas conscience que c'était des anges. Lui, il fait ça, il les invite chez lui, il dit, voilà, bon, il va un peu loin, je trouve, des fois, en proposant même ses filles. Mais là, il a quand même, il va quand même très très loin, quoi. C'est assez étonnant. Et je me dis, mais s'il était resté là, il dit, oh, vous voulez pas venir avec moi? Non, non, parce que les premières choses qu'ils ont dit, c'est, non, non, c'est bon. Non, non, on va pas venir. Et lui, il a insisté. Ça nous manque des fois d'insister. Et donc, quand il a insisté, ses anges sont venus chez lui et s'est passé toutes ces choses-là. Alors après, si ça n'avait pas été le cas, je sais pas comment ça se serait passé, mais bon. Moi, je me souviens d'une histoire où un jour je voulais faire traverser une personne âgée, un passage piéton. Je voyais, il y avait des voitures qui passaient et tout. Elle était là, elle attendait. Au bout d'un moment, j'ai vu ça. Il n'y a aucun. Je me suis dit, bon, je vais quand même un peu l'aider parce qu'elle ne va pas s'en sortir. Et donc je viens à côté et je dis, je vais vous aider. Puis elle me dit, non, non, c'est bon, ça va aller. Vous savez, bon, qu'est-ce que je fais? Je la laisse? Je m'en vais, et puis bon, on verra bien. Et je dis, non, non, vous pouvez pas, attendez, je vais vous accompagner. Allez hop, je la prends par le bras, on y va, on arrête les voitures, on passe et tout ça. Elle me dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est rare aujourd'hui, les gens qui sont gentils comme vous. Merci beaucoup, merci. Bah, elle voulait pas 5 minutes avant. Mais quelques secondes avant, elle voulait pas. Et là, elle était tellement contente. Elle était tellement contente parce qu'en fait, elle avait des problèmes. Mais elle osait simplement pas les avouer. Elle n'osait simplement pas le parler. Et en l'accompagnant, je me suis rendu compte, heureusement que j'ai insisté. Je me suis dit, heureusement que j'ai insisté, parce que finalement, eh ben voilà, en fait, elle avait besoin de ça. Donc ça passait par un refus, et puis après, finalement, on se rend compte que des fois, et on a besoin des fois d'insister, même avec Dieu, de dire « Seigneur, viens, non, reste là, non, viens, Seigneur ouais. !» Un peu de caractère avec Dieu, ça fait du bien. Donc le sens de suivre auquel Jésus fait référence consiste donc à laisser quelque chose derrière soi pour se mettre en mouvement, d'abord. Ensuite, laisser son cœur s'emporter dans l'élan pour le service pour Dieu, et puis persévérer toujours pour aller jusqu'au bout et ne pas s'arrêter en chemin. C'est de la folie. C'est de la folie pour les hommes. De se dire, non, mais moi je ne vais pas aller jusqu'au... C'est de la folie, mais c'est de la sagesse devant Dieu. Ce qui est fou pour les hommes. Et ça, pas forcément tout, mais en tout cas, voilà. La folie devant Dieu, la folie pour Dieu, c'est de la folie pour les hommes, mais c'est de la sagesse pour Dieu. C'est quelque chose que Dieu regarde avec beaucoup d'agrément. Et il recherche le zèle dans notre vie. Il recherche l'amour, il recherche la passion, il recherche le désir, il recherche la volonté, il recherche la détermination de vouloir toujours avancer, de vouloir toujours aller plus loin avec lui, de ne pas se contenter de ce que ma vie est telle qu'elle est aujourd'hui, mais de dire demain je veux encore Seigneur, demain je veux plus, demain je veux toujours plus, parce qu'on a toujours quelque chose à découvrir en Dieu. Dieu est infini, Dieu est immense, Dieu est grand, Dieu est puissant. Il dépasse notre capacité, notre intelligence, notre manière de penser. Il dépasse toute chose. Le jour où on dit, ça y est, j'ai terminé mon chemin avec toi, c'est bon, je suis arrivé, on a tort. On se trompe. Le jour où on s'assoit, on se trompe. Je ne dis pas ça parce que vous êtes assis. Le jour où dans notre vie, spirituellement, on s'assoit, on se trompe. Parce que notre vie est faite pour être en mouvement. Parce que la vie naît du mouvement. La vie naît du souffle. La vie naît du mouvement. On ne sait pas où il va, ni où il vient. Quelqu'un qui est animé de l'esprit. C'est ça que nous dit Jésus. On ne sait pas où il va, ni d'où il vient. Mais c'est le Saint-Esprit qui le conduit. C'est le Saint-Esprit qui le dirige. Et des fois, les autres autour de nous ne savent pas forcément, ne comprennent pas forcément. Mais quand Dieu met cette conviction dans notre cœur, une conviction aussi qui est basée sur la parole, qui est basé sur l'enseignement que Jésus nous donne, pas juste quelque chose qui passe dans notre tête comme ça, parce que, tiens, je le sens bien comme ça, mais quelque chose aussi qui trouve aussi, c'est pour ça que la parole de Dieu est une source d'inspiration, parce que Dieu aussi l'utilise pour nous parler. Le suivre, toujours marcher à sa suite, et être déterminé jusqu'au bout. Ne pas rester sur le bord du chemin, et si ça nous arrive un jour, si à un moment donné on découvre que « Seigneur, je suis tombé, Seigneur, je me suis mis sur le côté, Seigneur, aide-moi, je veux me lever, je veux marcher avec toi. Seigneur, aide-moi, je ne veux pas rester là où je suis, mais je veux progresser et je veux aller de l'avant. » Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu es notre bienfait, tu es notre modèle, tu es notre exemple, tu es celui qui dirige, Seigneur, toutes choses dans nos vies. Et Seigneur, quel que soit, Seigneur, ce que l'on ressent, quel que soit ce que l'on vit, quel que soit ce que l'impression, Seigneur, de notre cœur par rapport à toute chose, tu te tiens avec nous. Tu te tiens à nos côtés. Tu attends des fois, Seigneur, une parole de notre part à ton égard. Tu attends des fois, Seigneur, un élan de nous envers toi. Tu attends des fois quelque chose parce que tu es toujours à même de nous dire « Toi, suis-moi ». Tu es toujours à même de nous dire « Laisse toute chose qui est derrière toi et suis-moi. » Il n'y a pas 36 000 messages. Il y a ce message que tu nous adresses à chacun de dire « Tout ce qui n'est pas dans ma volonté, laisse-le de côté. » Et avance avec Dieu. Avance avec le Seigneur. Et concentre-toi sur Christ. Concentre-toi sur Jésus seul. Seigneur, conduis nos pas. Conduis nos pensées. Conduis notre chemin. Conduis, Seigneur, toute chose, et que notre vie soupire après toi. Soupire après le Dieu véritable. Seigneur, que nous ne soyons pas en train de regarder à droite, à gauche, de ce que notre frère, de ce que notre sœur fait ou a ou vit comme expérience formidable, même si ça peut être inspirant. Mais que nous soyons, Seigneur, en désir de toi. En désir, Seigneur, de ta personne. on désire qu'une parole de toi vienne, Seigneur, pour nous dire « Suis-moi et je », nous voulons te suivre, Seigneur. Et nous voulons marcher après toi. Nous voulons, Seigneur, persévérer. Et nous voulons dire « Seigneur, nous revenons pleinement, Seigneur, en toi. » Que nous ne restions pas sur le bas-côté. Que nous ne restions pas, Seigneur, dans nos habitudes. Que nous ne restions pas, Seigneur, dans notre religiosité. Que nous ne restions pas, Seigneur, assis, Seigneur, à attendre que quelque chose se passe. Mais que nous sachions, Seigneur, avoir ce désir plus fort que cette attraction, Seigneur, de la pesanteur. Seigneur, qui dit, reste là et ne bouge pas. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu veux accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Cette œuvre, Seigneur, unique, cette œuvre véritable. Seigneur, je prie, Seigneur, que chacun et chacune, Seigneur, trouve, Seigneur, pleinement ses repères dans sa vie, en toi. Seigneur, tu nous vois, Seigneur, ensemble, rassemblés devant toi. On a tous besoin, Seigneur, de marcher à ta suite. On a tous besoin de te suivre. On a tous besoin, Seigneur, de désirer plus de toi. On a tous, Seigneur, besoin, Seigneur, de nous approcher pleinement de toi. Chaque jour, chaque instant, chaque moment, Seigneur. Seigneur, nous attendons à toi. Nous attendons à toi, Seigneur, pour tous ces temps qui viennent, pour tous ces moments, Seigneur. Ces temps dans lesquels tu veux un moment particulier avec nous. Pas un moment, Seigneur, où il y a les masses forcément autour, mais un moment, Seigneur, où nous pouvons nous retrouver avec toi, Seigneur, et crier devant toi. Prier devant toi, venir devant toi, simplement. Seigneur, merci pour ta fidélité, pour l'œuvre que tu accomplis, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui accompagne, Seigneur, nos pensées, qui accompagne notre vie, qui souffle, Seigneur, et qui nous dirige, Seigneur, vers des endroits que nous n'aurions pas imaginés, auxquels nous n'aurions pas pensé, vers des rencontres auxquelles nous n'aurions pas pensé, Seigneur. Dirige toutes choses, parce que c'est le désir de notre cœur, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen.